Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde, Mondial Sport avec Hélène Avril à la réalisation. Bienvenue dans ce Mondial Sport très éclectique ce soir, avec au menu du tennis, du handball, de la boxe et du vélo. Nous reviendrons sur le sacre de Naomi Osaka à l'Open d'Australie, sur la déconvenue des handballeurs français au Mondial au Danemark, le point sur la tropicale Amissa Bongo. Un invité d'honneur également, le boxeur Nordin Ubali, tout frais champion du monde des poids coqs. On n'oublie pas bien sûr les résultats européens de football. Une page ballon que nous allons ouvrir dès maintenant avec vous, Frédéric Suto. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et on débute avec malheureusement une triste nouvelle aujourd'hui, l'annonce du décès d'une légende du football africain et congolais, Pierre Ndai Moulamba.
Oui, il s'est éteint dans l'anonymat ou presque. Pierre Ndai Moulamba, l'ancien attaquant des Léopards, quand la République démocratique du Congo s'appelait encore le Zaïre. Il est décédé ce samedi dans une clinique de Johannesburg, dans la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud, où il avait été transféré depuis Kinshasa dans un état très critique en octobre dernier. Son décès a été confirmé par sa famille. Ndai Moulamba, héros de la CAN de foot de 1974, remportée par le Zaïre, il avait inscrit 9 buts lors de la compétition, un record qui tient toujours. Il faisait aussi partie de l'équipe nationale qui représenta le Zaïre à la Coupe du Monde cette même année de 74. Un souvenir douloureux, les Zaïrois avaient perdu tous leurs matchs, dont un revers 9-0 face à la Yougoslavie. Ndai Moulamba, surnommé Mutumbula, le Léopard. Il faisait aussi partie de l'équipe qui a offert à l'AS Vita Club de Kinshasa le titre de champion d'Afrique en 1973. Il luttait contre la maladie depuis des années. Il s'est éteint à 70 ans, une légende du foot congolais et africain. Les hommages pleuvent. Florent Ibengue, l'actuel sélectionneur des Léopards, le connaissait très bien.
Un grand frère. C'est un monsieur que j'ai connu en 1974. C'était mon vieux et jusqu'à maintenant on était encore en contact jusqu'à sa maladie et on se voyait régulièrement. Quand il est parti, il était dans le coma. Je l'ai suivi à la clinique Bondeko la veille de son départ en Afrique du Sud.
C'est une grande perte pour le foot congolais ou le foot africain?
Pour les deux, il a marqué le foot africain. Jusqu'à maintenant, il est encore le recordman de buts en une seule édition de la Coupe d'Afrique. Et pour V-Club, on a une étoile sur notre maillot et il a gagné cette étoile-là. Il a joué la Coupe du Monde et là, jusqu'à maintenant, son nom est connu, reconnu. Donc voilà, c'est une légende du football africain et évidemment congolais qui s'en va.
Florent Ibengue, des propos recueillis par Kaboulo Mona Kaboulo à Kinshasa. Pierre Ndai Moulamba, héros des Léopards, champion d'Afrique en 74, nous l'avons dit, mais laissé dans l'oubli par la suite, humilié par le régime du maréchal Mobutu, furieux de la prestation des Zaïrois à la Coupe du Monde. Pour évoquer ce chapitre de la vie de Pierre Ndai Moulamba, nous sommes en ligne avec Claire Reynaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous avez consacré un livre, un ouvrage à Pierre Ndai Moulamba, « La mort m'attendra », hein, c'est le titre de ce livre que vous avez publié en 2010 avec ce sous-titre « Ndai Moulamba, le destin tragique de la star du foot africain brisé par Mobutu ». Alors on va y revenir. Claire Reynaud, c'est une histoire finalement méconnue, hein, derrière le buteur glorifié de la CAN de 1974 et ses 9 buts, dont 4 en finale. La suite de sa vie a été tragique, Ndai Moulamba, qui a dû subir les foudres du régime du maréchal Mobutu.
Absolument, Ndai Moulamba a été un véritable héros dans son pays en 1974, hein, quand il était capitaine des Léopards du Zaïre et qu'il a remporté la CAN. Cette même année-là, il y a eu aussi la Coupe du Monde de football qui se disputait en Allemagne, auquel ont participé les Léopards du Zaïre qui sont fait éliminer au premier tour. Et à partir de là, leur existence a commencé quand même à se compliquer parce que Mobutu a été absolument furieux. Il avait politisé cette Coupe du Monde, il voulait en faire une vitrine pour son pays. Malheureusement, voilà, les Léopards se sont fait atomiser dès le premier tour de cette Coupe du Monde.
Avec, on le rappelle, une défaite 9-0 contre la Yougoslavie. C'est ce qu'on retiendra malheureusement de cette Coupe du Monde en RFA.
Exactement. Quand ils sont rentrés, tout ce qu'avait promis Mobutu déjà a été revu à la baisse. Et puis, pour Pierre Ndai Moulamba, comme pour d'autres joueurs qui étaient courtisés par des clubs européens assez prestigieux, Mobutu a mis son veto pour qu'il ne puisse pas sortir du pays. Et Pierre Ndai Moulamba, lui, il avait eu des propositions pour aller jouer au PSG. et il n'a jamais pu quitter le pays pour rejoindre la France. Voilà, il a continué à jouer jusqu'à l'âge de 38 ans hein, dans le championnat zaïrois à l'époque. Et en 1994, la Confédération africaine de football l'a convié en Tunisie à une cérémonie pour lui remettre une médaille 20 ans après le sacre des Léopards du Zaïr à la CAN. Et lorsqu'il est rentré à Kinshasa, Mobutu a exigé qu'il lui remette cette médaille. Et il a... Et de son premier, le premier acte de bravoure politique de sa vie, il a refusé. Il a dit non, cette médaille, elle est pour moi. Elle est pour moi, mais elle est aussi pour toute l'équipe. Et donc, il a refusé de remettre cette médaille à Mobutu. Et quelques jours plus tard, des hommes masqués et armés ont fait irruption chez lui. Ils ont tué sous ses yeux son petit garçon qui avait 10 ans. Et lui, ils l'ont battu à mort. Ils lui ont cassé les jambes. Et quand je dis cassé, je pèse mes mots. Il a été récupéré par des mendiants qui l'ont reconnu et qui l'ont conduit dans un hôpital où il a été soigné de manière quasiment anonyme pendant plusieurs mois. Et ensuite, on lui a dit « Ok, t'es vivant, mais il faut que tu quittes le pays. » Et il y a un médecin qui l'a aidé à l'exfiltrer vers l'Afrique du Sud.
C'est là que vous l'avez rencontré, hein, quand, avant d'écrire ce livre en 2010. Vous êtes allé le voir, Dai Moulamba, en Afrique du Sud, où il était en exil.
Voilà. Il était en exil, il était apatride. Et voilà, il vivait dans un état d'extrême pauvreté. Moi, j'ai passé quasiment un mois en Afrique du Sud avec lui pour réécrire cette histoire. Je trouvais que voilà, son histoire était assez symptomatique du football africain, c'est-à-dire avec des joueurs qui peuvent devenir des superstars et tomber dans l'oubli ou être victime de certains systèmes politiques. Je voulais rendre hommage à ce joueur. Je l'ai dit au moment où j'ai sorti le livre. Pierre Ndiaye Moulamba, c'était le Zidane du foot africain.
Le Zidane du foot africain, Ndiaye Moulamba. Merci beaucoup, Claire Reynaud. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La mort m'attendra, Ndiaye Moulamba, le destin tragique de la star du foot africain brisé par Mobutu, Ndiaye Moulamba. Éric Mamrut décédé donc ce samedi 26 janvier.
La nouvelle reine du tennis est japonaise d'origine haïtienne. Naomi Osaka a remporté ce matin l'Open d'Australie. Victoire en finale aux dépens de la Tchèque Petra Kvitova. Un succès au bout de 2h30 de jeu et après de multiples rebondissements. Score final 7-6, 5-7, 6-4 pour Osaka, qui enlève ainsi son deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif et se hisse du même coup sur le trône de numéro 1 mondial. Mais que cette finale fut dure. Nathalie Dechy, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne joueuse française, on vous connaît bien, vous avez été 11e mondiale en 2006. Alors, Osaka, 21 ans, qui mène 7-6, 5-3, qui se procure 3 balles de match sur le service de Kvitova, qui n'arrive pas à les concrétiser, qui perd ensuite 5 jeux d'affilée. Là, on se dit normalement, eh ben, elle va perdre le match.
Oui, je pense que c'est ce qui a aussi impressionné, c'est-à-dire sa faculté à se remettre dedans sur ce troisième set. Moi, je me souvenais, à l'US Open, j'avais trouvé impressionnante de solidité sur cette fin de match, quand il y avait un bruit de dingue dans le Arthur Ashe Stadium, elle avait gardé son calme, elle avait servi pour le match de façon incroyable.
En finale et contre Serena Williams.
Oui, en finale contre Serena Williams. Et là, il y a eu ce petit dérèglement, et le fait qu'elle ait quand même réussi à rebondir, et puis à 5-4 au troisième, bah, resservir pour le match, et le faire son dernier jeu de service. Il est super, quoi. C'est vraiment le même qu'à l'US Open, quoi. Celui d'une championne et d'une numéro 1 mondiale.
À 21 ans, c'est pas commun quand même d'avoir ce mental.
Non, c'est vraiment pas commun parce qu'on sent qu'elle est rentrée dans une autre dimension derrière l'US Open. Elle a plutôt bien géré les attentes. Elle est devenue, bah, entre non seulement sa double culture, mais aussi être arrivée aussi vite, elle est devenue un phénomène et elle a continué à bien jouer et enchaîner ses deux grands chelems. C'est vraiment impressionnant et donc chapeau, quoi.
Deux grands chelems de suite donc pour Naomi Osaka dans un circuit féminin qui se cherchait une patronne. Ça y est, il l'a trouvé.
Ouais, c'est marrant parce qu'on l'a découvert, je dirais, aux yeux du grand public sur la tournée américaine l'année dernière où elle gagne Indian Wells et puis elle enchaîne à Miami où elle bat Serena qui revenait de grossesse. Et d'un coup, tout le monde s'est dit, waouh, elle a ce côté patron quand elle est sur le court, elle a ce côté, je me pose pas de questions. Et puis l'évolution, ensuite, le grand chelem sur l'été, le deuxième grand chelem, la place de numéro 1 mondial. C'est une évolution vraiment très, très rapide. Mais c'est une belle athlète, c'est une joueuse complète, très puissante, qui a un gros service, qui a des coups de fond de court. Ouais, elle est complète. Elle m'a vraiment bluffée dans la manière de conduire ses matchs et enchaîner deux grands chelems de suite. C'est pas facile parce que le premier, il vient un peu avec une surprise, mais le deuxième, quand il faut confirmer, il est souvent plus dur à aller chercher.
La voilà donc numéro un mondial. Est-ce que son règne est parti pour durer selon vous?
Quand on voit sa qualité de concentration, quand on voit techniquement et physiquement, surtout comme elle est à 21 ans, je ne vois pas pourquoi elle ne soulèvera pas plusieurs trophées du Grand Chelem. Elle a carrément le potentiel. Elle a l'air totalement concentrée là-dessus, hyper investie avec une équipe professionnelle derrière. Donc, elle a l'air assez bien entourée pour garder ce rythme.
Un dernier mot sur sa personnalité, peut-être. C'est une fille un petit peu étrange, hein, timide, et sur le court, c'est une tueuse. Enfin, comment vous la voyez-vous ?
Ouais, mais je pense que c'est un mélange de cultures, hein, et elle a cette culture japonaise est très pleine de respect dès qu'elle gagne, et puis derrière elle fait la courbette japonaise, elle a énormément de respect pour ses adversaires, donc tout en respect, en timidité, mais à côté de ça, elle a grandi et déménagé très tôt aux États-Unis, donc avec cette confiance à l'américaine, je dirais. Donc c'est tout un mélange qui fait que c'est vraiment un personnage détonnant, mais qui fait du bien au circuit, et c'est assez chouette de la voir, surtout qu'en fait elle est hyper, pour le moment, hyper fraîche, et elle partage avec tout le monde un peu ses émotions. Quand en début d'année elle perd en demi-finale à Brisbane, et elle dit bon ben voilà, je me suis pas bien comportée aujourd'hui, j'en suis désolée, je m'excuse. Elle dit les choses, quoi. Quand après l'US Open fin août, alors qu'elle devrait être la plus heureuse du monde, elle dit bah c'est quand même bizarre d'avoir gagné une finale comme ça, je devrais être contente, mais je le suis pas complètement, quoi. Donc je trouve qu'elle a une franchise et une honnêteté qui sont très fraîches et très sympas.
Merci beaucoup Nathalie Dechy, bonne soirée à vous. Puis ajoutons que Naomi Osaka devient la toute première joueuse asiatique de l'histoire numéro 1 mondiale. La finale homme, elle aura lieu demain matin à Melbourne. Un choc de titans entre le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Rafael Nadal. Leur 53e duel, ça promet. Premiers échanges à 8h30 temps universel. On passe au cyclisme. Frédéric Suteau, l'actualité de la semaine nous emmène au Gabon. La 14e édition de la Tropicale, Amissa Mongo, elle se termine demain.
Oui, elle nous tient en haleine depuis lundi, cette Tropicale, depuis le départ de Bongoville, Franceville, Mwanda, Okonja, le transfert vers le nord, Midzik, Oyem, Bitam, le crochet il y a deux jours en Guinée équatoriale. Déjà beaucoup de routes, oui, pour les coureurs et pour les suiveurs. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial sur cette Tropicale 2019 avec Maître Chablaoui à vos côtés pour les moyens techniques. Olivier, il ne reste plus qu'une étape, la dernière, demain, Coq Libreville. C'était aujourd'hui l'avant-dernière, la sixième, 110 km entre Bitam et Oyem. Et, oh, surprise Olivier, c'est un sprinter qui s'est imposé comme à chaque fois depuis le début de la course lundi.
Oui, mais cette fois, Frédéric, c'est Greppel qui gagne au jeu du chat et de la souris quotidien, hein, auquel nous assistons. L'Allemand aux 155 victoires, 23 sur les grands tours, 11 victoires d'étape rien que pour le Tour de France. Toute la semaine, il avait été battu par le maillot jaune Nicolo Bonivazio, 3 fois par le Français Lorenzo Manzin de la Réunion, par un Érythréen de 18 ans, Binyam Girmay, lui, le gorille de Rostock, recrue de l'équipe française Arkéa Samsic. Il apporte donc son premier succès de l'année à cette formation qui lutte avec Direct Energy, on l'a dit, avec Vital Concept pour une invitation sur le prochain Tour de France. On écoute le directeur sportif Sébastien Hinault.
Ouais, bah c'est vrai que qu'on va dire à force de tourner autour, on finit par tomber dedans, hein, mais il y avait un peu de frustration, faut le reconnaître, hein, de pas gagner depuis le début. C'est vrai que cela fait beaucoup de bien, donc à la limite plus on attend, plus elle fait plaisir. Alors, pour vous dire qu'elle fait vraiment plaisir.
Et un œil sur le peloton africain cette semaine, votre œil avisé, vous pensez quoi de ces coureurs du continent?
Bah, j'étais venu, pour rien te cacher, en 2007, en tant que coureur déjà. Et il y avait déjà un bon petit niveau africain, mais là c'est encore vraiment passé un cran. Il y a des équipes comme l'Érythrée qui sont très très fortes, le Rwanda, certains Éthiopiens qui prouvent qu'ils ont vraiment au niveau mondial. Ça progresse d'année en année. Et je pense que d'ici peu, on verra pourquoi pas une équipe vraiment africaine en haut niveau mondial.
Oui, puisqu'il en parlait Sébastien Hinault, sachez que les Érythréens sont 4 parmi les 10 premiers, mais le podium, lui, est 100% européen.
Alors derrière ce trio européen de tête au général, Olivier, le premier Africain à la veille de l'arrivée, il est Algérien, Youssef Regigui, 4e, c'est ça ?
Oui, il tente tous les jours, Youssef Regigui, professionnel, notamment chez les Sud-Africains de Dimension Data. Il y a quelques années, on l'avait vu aux Jeux de Rio. Il est champion d'Algérie en titre. Au final, que des places d'honneur cette semaine, notamment deux fois deuxième, hier et aujourd'hui. Quand ça veut pas, mais quatrième au général, c'est déjà pas si mal, Youssef Regigui.
J'ai terminé deuxième derrière Greipel. Il est bien placé avec son équipier. Pour moi, c'est pas mal. On fait le maximum demain pour gagner l'étape. Parce que je pense que le général il est déjà joué aujourd'hui.
Est-ce qu'un podium ou même un top 5 à la Tropical Amissa-Bongo, ça vous ferait plaisir?
Dans les 5 premiers au général, je suis très content. J'espère l'année prochaine, on revient aussi.
Pour gagner cette
pour
fois.
Pour gagner cette fois.
Youssef Regigui, quatrième au général. Olivier, qu'en est-il des autres coureurs africains, les Camerounais, les Gabonais, les Burkinabés? Dites-moi, ils ne se cachent pas tout de même?
Allez, on va pas parler de tout le monde, on en garde pour demain, Frédéric. Les Érythréens, on l'a dit, ils sont 4 dans les 10 premiers. Les Rwandais, tenants du titre, ils sont décevants. Pas une victoire. Le meilleur, au général, eh bien, il est 7e. Didier Munyaneza, on en reparlera aussi. Comme des Mauriciens, bonne surprise de la semaine. Ils viennent pour la première fois. Ils sont 4 aux avant-postes, enfin, entre la 20e et la 30e place. Pour d'autres, eh bien sûr, c'est plus compliqué, comme les Burkinabés. Paul Daumont, le meilleur, est 39e. C'est pas grave, c'est bien, nous dit le capitaine de course, Abdulaziz Nikiema.
Vous voyez qu'on n'arrive pas à se frotter à des compétitions très 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 fortes comme ce genre de compétition. Vous voyez déjà que si ça frotte déjà, on s'écarte parce qu'on n'est pas habitué à se frotter dans les courses comme ça. Donc ça fait que c'est dur pour nous. Ça commence à venir déjà parce qu'on s'est habitué déjà à se frotter avec les professionnels. Donc déjà ça commence à venir.
C'est une bonne semaine?
Oui, une très bonne semaine parce que depuis que le tour a commencé, il n'y a pas eu assez de chutes graves, donc je pense que c'est l'essentiel déjà. Et donc je profite d'encourager mes équipiers qui sont là, mes espoirs, comme Dumont Paul et puis Kone Souleymane. Donc je pense que ça fait du bien à l'équipe du Burkina Faso.
Un mot également, Frédéric, des hôtes de la Tropical Amissa-Bongo, les Gabonais, ils ne sont plus que 3 sur 6 en course, on en a parlé, mais ils se battent en panthère en espérant des jours meilleurs. Sait-on jamais, Geoffroy Ngandamba, leur leader.
Aujourd'hui, nous, on se retrouve à 3 dans le peloton. C'est difficile pour nous de pouvoir gérer des efforts. Moi, j'aurais souhaité que mes coéquipiers soient avec moi. Et puis, bon, peut-être à travers leur présence, on pouvait faire quelque chose de mieux que ce que nous sommes en train de faire. Et vous-même, vous voyez, avec les professionnels, c'est difficile pour nous. Donc, ce que nous, on essaie de faire, c'est d'être dans les roues et arriver dans les meilleurs délais pour ne pas être ridicule.
C'est décourageant parfois?
Oui, c'est décourageant lorsqu'on se retrouve dans un peloton à 3. Et puis après, c'est difficile. Pour nous, le plus important, c'est qu'on a fini l'avant-dernière étape. C'est pratiquement fini pour nous. Et puis, on va voir comment on va relancer les choses. Le vert, jaune, bleu, c'est ça. Donc, on ne peut que faire le sacrifice pour notre pays.
Le sacrifice pour le pays. Voilà, Frédéric, sacrifiez-vous pour Mondial Sport, tiens, tant qu'on y est. Clap de fin, ce dimanche à Libreville, on l'a dit, dernière étape, 133 km, mais le vainqueur, croyez-moi, il est connu, il s'appelle Nicolo Bonifazio, ça ne changera pas.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Pron et Médard Chablaoui, sur la route de la Tropical Amissa, Bongo, et c'est promis, on vous retrouvera demain soir, dimanche, dans Mondial Sport, également, pour tous les bilans de cette Tropical 2019. Merci Olivier, bonne soirée.
Et merci beaucoup Frédéric Suto, je trouve que vous êtes très très bien sacrifié, on peut rien vous dire à ce niveau-là. Très bonne soirée, allez on passe à la boxe. Il est le nouveau champion du monde WBC des poids coqs, Nordine Oubali, a réalisé son rêve dimanche dernier à Las Vegas dans le mythique MGM Grand Arena, une victoire sur décision des juges sur l'américain Raushi Warren et une première ceinture mondiale, la seule actuellement détenue par un boxeur tricolore. C'est une sacrée consécration pour ce boxeur nordiste de 32 ans, parcours tortueux notamment lors de sa carrière amateur. Nordine Oubali, quelques jours après son sacre, nous a rendu visite à RFI. Il s'est confié avec une grande sincérité à Thomas de Saint-Léger et à Farida Chach, Nordine Oubali, toujours avec des étoiles dans les yeux.
Gagner une ceinture mondiale qui est la plus prestigieuse et la gagner au MGM Grand, c'était vraiment au-dessus de mes rêves. Mon titre, il vaut 100 titres que j'aurais pu faire n'importe où dans le monde. Et c'est vraiment ça, c'est le rêve américain qui a été accessible pour un petit Français qui est parti à Vegas.
Première personne à qui vous avez pensé quand vous avez gagné la ceinture?
Mon papa, bien évidemment. Il a sacrifié sa vie pour ses enfants. Il a fait plusieurs métiers, il a travaillé à la mine toute la nuit et la journée. Il dormait à peine quelques heures pour aller travailler dans un garage Renault. Quand il était en vacances, le pauvre, il s'amusait pour gagner plus d'argent, pour nous mettre dans les meilleures conditions. Il faisait chauffeur de car pour aller France-Maroc. Il a laissé sa santé pour nous. Et pourquoi il est parti trop tôt, c'est par rapport à tout ça. Moi, ce qui m'a donné la force aujourd'hui d'aller chercher ce titre, et toute la misère et les obstacles qu'il a franchis, je me dis, moi, aujourd'hui, j'ai pas le droit de me plaindre. Même si tout le monde se plaint, et c'est bien de se plaindre, parce que c'est qu'on veut évoluer, on veut progresser dans sa vie. Mais dans la vie, il faut savoir aussi remercier et se dire, je suis bien, prends ton mal en patience, c'est ce que j'ai fait, et aller encore de l'avant. Moi, les coups les plus durs que j'ai reçus, c'est pas en boxant, c'est pas en entraînement, c'est en dehors du ring.
Vous êtes aujourd'hui le seul Français détenteur d'une ceinture mondiale. Est-ce que c'est anecdotique ou alors est-ce que c'est une valeur particulière d'être le seul de votre pays à posséder cette ceinture?
Pour moi, c'est une valeur, une grande valeur d'être le seul champion du pays, mais à savoir aussi dans ma catégorie, pour aller plus loin. Ça fait 60 ans qu'il n'y a pas eu de champion du monde dans ma catégorie. Je ne le savais pas avant de faire ce titre, et j'ai appris par les journalistes. Et là, vraiment, c'est plus qu'un exploit. Gagner un titre mondial en poids coq, 60 ans après, c'est énorme.
Est-ce qu'on peut parler d'une génération dorée dans la boxe française aujourd'hui avec vous, avec Souleymane Sissoko, avec Tony Yoka, bien sûr, avec aussi Michel Serrault, par exemple?
On a une très bonne génération. Hein. Ça a toujours été le cas, je pense. C'est juste que là, la boxe, elle commence à redevenir sur le devant de la scène. Donc ça permet aussi d'avoir de plus de moyens, plus de communication. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être devenu champion du monde, il y a des très beaux boxeurs en France, et ça va leur permettre aussi de se dire que tout est possible, parce que j'ai pas un parcours facile, et à la fin, je vais chercher la ceinture la plus prestigieuse, et je vais la chercher dans le pays de la boxe, aux États-Unis. Je donne aussi de l'espoir aux Français. Montrer, regarde, Nourdine, il est parti de où il est arrivé. Et moi, je veux être un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui, et leur montrer que tout est faisable et tout est possible.
Votre parcours, on va en reparler. D'abord, médiatiquement, jusque-là, vous étiez moins connu qu'un Yoka, par exemple. Est-ce que ce manque ou cette moindre reconnaissance médiatique, c'est quelque chose dont vous aviez souffert ou alors pas du tout?
Moi, je ne vais pas dire que j'ai souffert. Je pense que c'est la discipline qu'elle a souffert, étant donné que mettre à l'écart et pas mettre en lumière un boxeur comme moi, qui a des vraies valeurs. Parce que j'ai les valeurs du travail, j'ai une vraie histoire, j'ai un parcours atypique, compliqué, mais comme je dis, la victoire aime l'effort. Never give up, on n'abandonne pas. Et aujourd'hui, si j'arrive à ce titre, c'est mon parcours. C'est mon parcours qui fait que je suis champion du monde.
Racontez-nous d'ailleurs ce parcours, le point de départ de ce parcours, qu'est-ce que c'est?
C'est en 2014, quand je passe professionnel. Parce que moi, après les Jeux de Londres, j'avais arrêté. Et en 2012, j'ai arrêté 2 ans, parce que j'étais dégoûté du sport olympique. En quart de finale, on me met perdant face à un Irlandais qui méritait pas de gagner, tout simplement. En descendant du ring, déçu, très très déçu du jugement humain, hein. Je me suis dit, Nourdine, il y a 2 choix. Je passe professionnel ou j'arrête. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Donc de là, une fois que j'ai vraiment arrêté pendant 2 ans. Et celui qui m'a motivé et qui m'a, entre guillemets, remis en selle, c'est mon frère Ali, qui est aujourd'hui mon entraîneur. Et on s'était dit, à cette époque-là, alors on n'est personne, pas promoteur. À notre 15e combat, on sera champion du monde. Et ça, c'est véridique. Hein. Et même moi, j'y crois pas. Parce que j'ai fait mon championnat du monde à mon 15e combat. Et ça, c'est énorme.
La phase conquête, maintenant, est terminée. Il y a la phase défense de cette ceinture qui s'annonce. On ne connaît pas encore votre premier challenger. Est-ce qu'elle est aussi excitante, cette partie défense de la ceinture?
Oui, évidemment, elle est excitante parce que j'ai envie de garder la ceinture à la maison. Je me suis battu dur pour avoir ma chance. Je sais que la personne qui va venir m'affronter... Alors, autant envie que moi, mais moi, je me dis trop galéré pour l'avoir, pour la lâcher.
Nourdine Houbali, dont l'un des objectifs futurs est également de réunifier les 4 ceintures mondiales des poids coqs, un exploit pour l'instant inédit. Pas de passe de 3 pour les experts. Non, les handballeurs français ne seront pas demain champions du monde pour la 3e fois consécutive. La faute à une lourde défaite hier à Hambourg face au Danemark. Une déconvenue même 38-30 dans un match à sens unique. Les Danois, champions olympiques en titre, tenteront donc demain chez eux de décrocher face à la Norvège leur tout premier titre mondial. Quant à la France, elle essayera de se consoler avec la médaille de bronze, toujours à Herning, dans le centre du Danemark. Où l'on retrouve le Mister Handball de RFI, j'ai nommé Christophe Diremzian, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Le bronze donc pour objectif, maintenant pour les Bleus, encore doivent-ils se remobiliser après la belle claque reçue hier?
Eh oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Après cette déception immense, les joueurs qui se sont entraînés cet après-midi ne se sont pas exprimés de nouveau. Mais ils avaient à peu près tout dit hier de ce non-match où absolument rien n'a fonctionné face à des Danois portés comme jamais par leur star Mikkel Hansen et ses 12 buts. Les Bleus n'ont eu ni réussite ni esprit de révolte lorsqu'ils ont eu 6 buts de retard à la pause. Cette véritable claque de 38 buts fait beaucoup plus mal que leur élimination par l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2018. Et à l'issue de ce match, le demi-centre, Quentin May, avançait plusieurs explications.
C'est un mix de plusieurs choses sur la première mi-temps. Nous, les décisions qu'on prend alors qu'on est un de moins, qui mène à des buts un peu faciles dans un but vide. Et le fait de ne pas être assez agressif contre les tireurs danois qui ont un rendement très très qualitatif. On s'était préparé à ça, on sait très bien comment ils jouent. Et notre défense n'a pas réussi à perturber les tireurs d'une manière assez importante. Et voilà, ils étaient en chaleur. Et prendre 38 buts, on ne mérite pas d'aller en finale.
Allez, réaliste, hein, Quentin Mahé. Oui, cette équipe de France-là ne méritait pas d'être championne du monde pour la 7e fois. Elle n'est d'ailleurs plus championne de quoi que ce soit désormais. Ça ne s'était pas vu depuis 2008. C'est une fin de cycle pour les résultats. Une période de transition qui continue pour une sélection où Nicolas Karabatic, arrivé en cours de compétition après son intervention au pied, ne pouvait pas être totalement opérationnel et où les jeunes doivent encore prouver et grandir. Mais pour le directeur technique national, Philippe Bana, eh bien, le dernier carré, c'est déjà pas si mal.
Je dis pas que j'aurais signé au début là-dessus, mais il faut vivre les moments qu'on a à vivre. On est surtout dans une idée de diesel olympique. L'enjeu final de toute cette histoire, c'est Tokyo 2020. C'est une espèce de série à épisodes. Et dans cet épisode-là, eh ben, on n'avait pas forcément notre meilleur joueur dans le meilleur état. On avait deux générations qui commencent à cohabiter, qui sont plutôt des choses positives vers le futur. Donc il n'y a aucune fin. On est juste à un épisode, juste avant la vraie bonne fin de la série, qui sera les Jeux Olympiques de Tokyo.
Des Jeux où cette fois les Français pourraient ne pas y aller directement, sauf s'ils sont champions d'Europe en janvier 2020. L'autre option sera un des tournois de qualification olympique qu'ils devraient normalement organiser au printemps 2020.
En attendant, Christophe, il y a donc demain cette médaille de bronze à aller chercher, mais bon, ce ne sera pas si simple que ça, ce sera face à l'Allemagne.
Et oui, quand on sait à quel point le match du tour préliminaire contre la Mannschaft a été compliqué avec un nul 25 partout, arraché à 3 secondes de la fin sur un but de Timothée Nguessan. Les Allemands ont également pris une claque hier vraiment à Hambourg par les Norvégiens, 31-25. Pas question évidemment pour eux de quitter leur mondial sans faire au moins un podium. Alors est-ce que les Français auront l'énergie pour résister à la rage de vaincre des joueurs de Christian Prokop? Question posée au pivot tricolore Ludovic Fabregas.
L'énergie, si on l'a, j'en sais rien, mais je pense pas qu'à ce niveau-là, la compétition, ça se joue sur l'énergie. Je pense que ça se joue dans la tête. Je pense que c'est là où on saura si on est capable d'aller chercher une médaille de bronze ou non. À ce niveau-là, la compétition, quand tu joues autant de matchs en si peu de temps, physiquement, c'est compliqué, mais ça l'est pour tout le monde. Donc après, c'est ceux qui sont les plus solides mentalement, qui arrivent à aller plus loin. J'espère qu'on aura les ressources, qu'on va rester soudés comme on l'a fait depuis le début et qu'on ira chercher une médaille pour récompenser tout ça et éviter d'avoir la place du con.
Et éviter surtout de repartir sans la moindre récompense dans une compétition internationale, ce qui n'est plus arrivé aux Bleus depuis 2013.
Merci beaucoup Christophe Diremzian, on vous retrouve demain pour suivre ce France-Allemagne dans nos éditions. Coup d'envoi 13h30, temps universel, la finale Danemark-Norvège juste après. On reviendra bien sûr sur cette dernière journée demain soir dans Mondial Sport. Avant de se quitter, quelques résultats de football. La Ligue 1, tout d'abord, 4 matchs de la 22e journée ce soir. Strasbourg a battu Bordeaux 1-0. Les Alsaciens qui grimpent à la 5e place. Nice est juste derrière. Après son succès 2-0 contre Nîmes en bas de tableau, ça ne s'arrange pas pour la lanterne rouge Guingamp. Dominé sur son terrain par Reims 1-0. Et pour Monaco, battu 2-0 à Dijon. En Espagne, 21e épisode, l'Atlético Madrid revient provisoirement à deux longueurs du Barça après sa victoire sur Getafe 2-0. Séville est 3e après avoir étrié Levante 5-0. L'Allemagne, 19e journée. Aucun souci pour le leader, le Borussia Dortmund qui a écrasé Hanovre 5-1. Son dauphin reste à 9 longueurs. Le Borussia Mönchengladbach tombeur d'Augsbourg 2-0. Et puis en Italie, 21e journée avec notamment un choc, Milan AC Naples à l'arrivée 0-0. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain pour Mondial Sport dimanche avec toujours Hélène Avril aux manettes. Bonne soirée.